La dernière fois, nous avions essayé de voir comment, après l'interrogation sur qu'est-ce que c'est que l'être, il doit y avoir le retour sur la réalité en tant qu'elle existe, la réponse devant être découverte dans la réalité elle-même qui existe, c'est-à-dire moi-même ou n'importe quelle autre réalité, puisque c'est cela que je regarde de commun à tout ce qui existe, peu importe telle ou telle réalité. Donc l'interrogation revient sur la réalité. Autrement, nous risquons de nous enfermer dans cette propre interrogation pour trouver la solution à l'intérieur même de l'interrogation. L'interrogation a sa signification. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, où trouver la réponse à cette interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Où je la trouve à l'intérieur même du sujet interrogeant, où je la trouve à partir de la réalité d'où est venue l'interrogation. Je crois qu'il faut bien saisir ces deux possibilités, si vous voulez. De fait, elles ont existé, hein, et elles se posent, il faut bien comprendre que pour chacun d'entre nous, il faut que nous refassions cet itinéraire pour comprendre comment, lorsque j'interroge qu'est-ce l'être, je suis parti du jugement d'existence, ceci est. Alors, dans la mesure même où je regarde le mode abstrait de l'être qui provient du sujet pensant, donc de l'homme interrogeant, dans la mesure même où je regarde ce mode abstrait, j'aurai la tendance de chercher la solution dans une attitude réflexive sur l'homme pensant. Je suis capable de poser cette interrogation. Il y a dans mon intelligence cette capacité. Je peux vivre cette interrogation et comprendre que l'intelligence est capable de poser cette interrogation. Si l'intelligence est capable de poser cette interrogation, il y a peut-être par rapport au sujet pensant, c'est-à-dire par rapport à l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, puisque ici c'est l'appétit de l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, la solution. Donc c'est dans une attitude réflexive sur le sujet pensant que je peux trouver, qu'il y a une voie d'accès. Je ne dis pas qu'elle est la bonne, mais elle est possible, elle a existé. À ce moment-là, je me replie sur le sujet pensant, ou au contraire, je vois que la signification de être est la même que celle qui provient du jugement d'existence. Et je me dis que c'est le retour à la source. Il faut revenir à ce jugement d'existence, ceci est, qui porte sur la réalité existante. C'est-à-dire, ça peut être moi existant. Vous voyez la différence, hein ? Il faut bien saisir toute la différence qui existe. Moi existant ou l'intelligence pensante. Pensez à Descartes, ça vous aide. Pensez à Occam, c'est intéressant. De voir comment il peut y avoir ce retour sur le sujet pensant. Pensez à Kant. Parce qu'au fond, nous sommes là en présence de toute une série de philosophes qui ne cherche pas la solution à partir du jugement d'existence, mais qui cherche au contraire la solution à partir du sujet pensant. Et je vois très bien comment l'interrogation peut très bien m'amener à cela, étant donné que l'interrogation a quelque chose de sui generis, a quelque chose d'original, a quelque chose de nouveau. Il y a un dépassement par rapport au jugement d'existence, par rapport à la réalité. Il y a un dépassement, ce dépassement qui me permet de me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je peux rester sur l'interrogation, je peux revenir sur le sujet pensant, je peux revenir sur la réalité d'où est venue l'interrogation. Je crois qu'il n'y a pas plus que trois positions. C'est déjà pas si mal. C'est les trois positions possibles. Au plan critique, vous voyez, là je suis vraiment dans une attitude critique. J'essaie de comprendre, est-ce que j'ai le droit de prendre ces trois aspects-là? Alors, regardons successivement ces trois positions. Si je reste sur l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Je resterai uniquement à essayer de creuser cette interrogation, à la voir de la manière toujours plus pure. Mais je reste dans l'interrogation, pas de solution. L'interrogation n'apporte pas à elle-même sa solution. Mais elle met l'intelligence dans un état d'ouverture et d'attente. J'attends que l'être se révèle à moi. Mais qu'est-ce que c'est que cet être? Parce que je ne sais pas ce que c'est, puisque je dis qu'est-ce que c'est que l'être. Donc je l'attends qu'il se révèle à moi. Je ne dis pas du tout que cet être, c'est Dieu, hein. Heidegger n'aime pas du tout quand on lui dit que quand il pose l'être, c'est Dieu. Et je comprends très bien, ce n'est pas du tout Dieu, c'est l'être. Donc la chose la plus universelle et en même temps la plus singulière, le dépassement du singulier et de l'universel, le dépassement de l'aspect du sujet de l'objet et de l'objet, c'est quelque chose qui s'impose à moi comme quelque chose de tout à fait premier. Et c'est pour ça que je reste et premier dans le sens de tout à fait fondamental et quelque chose de tout à fait ultime aussi. Et je reste en face de cette interrogation, d'une position. Alors, est-elle légitime? Elle est légitime dans la mesure où les deux autres positions sont impossibles. Si les deux autres positions sont impossibles, elle est légitime. Et ça pourrait très bien se faire, hein, que ce soit la seule position possible. Poser l'interrogation et penser cette interrogation. Donc, je pense l'être dans l'interrogation. Et je ne pense pas l'être en dehors de l'interrogation. Penser l'être, c'est interroger sur l'être. Parce que l'être m'échappe. Vous voyez, c'est très beau, du reste, hein, de bien voir ça. Parce que peut-être qu'on oublie trop quand on dit penser l'être de Heidegger. On oublie que penser l'être pour Heidegger, c'est interroger l'être. Parce que l'être ne peut être qu'interrogé. Penser l'être, ça pourrait être quelque chose de positif, alors je retomberai dans une espèce de saisie, une appréhension. Alors ce ne serait plus penser l'être. Penser l'être, pour Heidegger, ça c'est très net, c'est m'ouvrir à l'être. C'est accueillir l'être, c'est d'être dépassé par l'être et attendre que l'être se révèle. Donc, c'est rester vraiment dans l'attitude de l'interrogation. Et dans l'interrogation, je pense l'être, forcément. Autrement, mon interrogation n'aura aucune signification. Mais je ne donne pas de solution. Je suis donc en face d'une attitude qui est une attitude d'attente, d'ouverture, une attitude qui a sa grandeur et sa noblesse. Je ne veux pas diminuer l'être. Et pour ne pas le diminuer, je demeure dans l'interrogation. Parce que si je prends une autre attitude, je risque de le diminuer. Je risque de mettre le sujet pensant qui le domine. Quand je suis dominé par quelqu'un, j'interroge. Je n'arrive pas. Quand je n'interroge plus, je domine. On voit très bien ces deux attitudes possibles. Donc il y a là quelque chose de très grand et d'intéressant qui est légitime si les deux autres voies sont impossibles. Alors, regardons le retour sur le sujet pensant. Sur le sujet pensant, si je dis que l'interrogation « qu'est-ce que l'être ?» doit s'expliquer par l'intelligence pensante, par le nous. Ai-je le droit de le dire? Pour pouvoir le dire, il faudrait dire que l'être provient du sujet pensant. C'est donc comme l'effet. du sujet pensant. Personne et rien ne permet de le dire, puisque c'est donné sous la forme d'interrogation. Donc je ne peux pas dire que l'être dans l'interrogation provient du sujet pensant. C'est donné sous forme d'interrogation. Si ce n'était pas donné sous cette forme d'interrogation, je pourrais dire que c'est le fruit. Mais comme c'est donné sous la forme d'interrogation, c'est pour ça que Heidegger dit que c'est préconceptuel, parce que c'est donné sous la forme d'interrogation, donc ce n'est pas une appréhension. Une appréhension, ça donnerait le concept. Je ne peux pas dire que ça provient du sujet pensant. Ça ne peut pas venir de l'intelligence pensante, puisque ça m'apparaît justement comme quelque chose qui m'échappe, comme quelque chose qui est plus grand que moi. Donc, je ne peux pas revenir sur le sujet pensant pour expliquer la signification de l'être. Je relativiserai à ce moment-là la signification de l'être au sujet pensant et j'enleverai ce qu'il y a de propre à cette interrogation. Puisque le propre de l'interrogation, c'est de mettre justement relatif à ce qu'est-ce que c'est que l'être. Vous voyez, il y aurait là quelque chose de contradictoire que je n'ai pas le droit d'accepter. Donc je ne peux pas demander la solution dans une attitude réflexive. C'est curieux, l'interrogation refuse cette attitude réflexive. C'est ça qui serait intéressant à voir. Comment l'interrogation refuse cette attitude réflexive? L'attitude réflexive, c'est nécessairement regarder quelque chose qui provient de moi. Vous voyez, et Heidegger serait tout à fait contre cette attitude-là. Puisque c'est préconceptuel. Donc c'est quelque chose qui m'échappe. Je suis dans l'attitude de réceptivité. Si je suis dans l'attitude de réceptivité, c'est pas celui qui est dans l'attitude de réceptivité qui explique ce qu'il reçoit. Primo cadit id intellectu. Vous voyez, là il y a quelque chose de commun entre Heidegger et saint Thomas. Primo cadit id intellectu. Ce qui tombe dans l'intelligence n'est pas le fruit de l'intelligence. Puisque cadit, donc ça tombe. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça ne provient pas. Vous voyez, la pierre qui tombe dans le puits, elle ne vient pas du puits. C'est impossible. Elle tombe dans le puits. Donc ça tombe dans la profondeur de l'intelligence, ça tombe dans l'abîme de l'intelligence. Cet abîme de l'intelligence, c'est très vrai. L'intelligence est quelque chose d'abyssal, c'est sûr. Elle a cette réceptivité de l'être. Mais ce n'est pas le réceptacle de l'être qui explique l'être. Or, l'intelligence apparaît comme le réceptacle de l'être. Vous savez, cette phrase d'Aristote si jolie, quand il dit que l'intelligence est le lieu de toutes les formes. Donc, elle est le réceptacle. Et c'est vrai que dans l'interrogation, l'intelligence apparaît comme le réceptacle. Elle ne l'explique pas. Donc, je ne peux pas prendre cette issue. Reste la dernière. La dernière, c'est de se demander, mais d'où vient la signification de l'être ? Ce n'est pas l'intelligence qui l'invente, elle vient de quelque chose qui est antérieur à l'interrogation. Elle vient du jugement d'existence. Si elle vient du jugement d'existence, je peux donc revenir à la réalité d'où provient ce jugement d'existence et d'où provient l'interrogation. Je vais donc essayer cette voie. Je n'ai pas le droit, a priori, de dire « cette voie n'apporte rien ». Je n'ai pas le droit de dire ça. Ça, ce serait un a priori. Puisque je vois que cette interrogation provient du jugement d'existence. Je dois donc revenir au jugement d'existence, c'est-à-dire à la réalité d'où provient le jugement d'existence et d'où vient l'interrogation. Et c'est légitime parce que la signification de être et la signification dans le jugement d'existence, ceci est la même. Donc, il y a une continuité. S'il n'y avait pas cette continuité, si c'était discontinu, je ne pourrais pas revenir. Mais comme il y a continuité, je ne peux pas revenir. Vous voyez, Heidegger ne peut pas faire ça parce qu'il sait couper la voie de revenir en mettant le néant. Il a mis entre ceci est le néant. Il a créé un abîme qui a refusé le retour. Et donc Heidegger n'a plus qu'une solution, c'est de rester dans l'interrogation. Jusqu'au moment où l'être se révélera à lui. La vision béatifique. C'est une attente de vision béatifique. Remarquez, c'est grand, hein. Il y a une noblesse de l'intelligence qu'il faut saisir. Il y a une très grande noblesse, c'est beaucoup plus grand, vous voyez, que l'attitude réflexive pour considérer que l'intelligence domine l'être. Là, on est dominé par l'être. Et donc, on est en attente, non pas de Dieu, puisque l'être n'est pas Dieu, mais on est dans l'attente de celui qui peut seul expliquer l'être, c'est en définitive Dieu. Et vous voyez, c'est là le vieux reste d'ontologiste qui reste dans Heidegger. Parce qu'au fond, il y a ça. Qu'est-ce qui va expliquer l'être? En définitive, c'est Dieu. Et donc ça, c'est l'ontologiste poussé jusqu'au bout. Dans l'ontologiste, vous savez bien que la position de l'ontologiste, c'est Dieu qui explique tout. C'est Dieu qui est le principe d'intelligence de toute chose. Le fini s'explique par l'infini. Or là, c'est l'être, c'est grand, ne peut s'expliquer que par une révélation de Dieu. Si Dieu me parle, il m'expliquera l'être. Vous voyez le vieil Parménide, hein? Si Dieu me parle, il m'expliquera l'être. Si la déesse me parle, elle m'expliquera l'être. Mais l'être ne peut être expliqué que par la déesse. L'être ne peut être expliqué que par Dieu. Alors, je crois que ça, c'est le vieux reste de l'ontologisme qui demeure dans Heidegger. Et c'est pour ça que je ne peux pas le suivre. Et je reviens alors ici, puisque je ne mets pas le néant entre la réalité, ceci est. Pour Heidegger, c'est l'étant. Pour nous, c'est plus que l'étant, c'est la saisie dans l'étant de ce qui est. Alors nous revenons au jugement d'existence. Et il n'y a aucune objection qu'on peut faire à ça. On peut revenir. Ah, je ne sais pas si ça va aboutir, hein. Soyons loyaux. Je ne sais pas si ça va aboutir. Qu'est-ce que je vais découvrir, hein? Il faut rester dans l'interrogation. Il faut rester dans l'état d'attente pour revenir à la réalité qui existe, à moi-même qui existe, ou à mon ami qui existe, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. Et je reviens à cette réalité qui m'est donnée, à cette réalité que j'ai expérimentée dans le jugement d'existence, que j'ai touchée, Tingen, que j'ai touchée, que mon intelligence a atteint, a touché. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, vous voyez, dans ce retour à la réalité, je ne regarde de cette réalité que le point de vue est. C'est la seule chose. Je suis parti de là et je reviens. Donc, première démarche que je crois très importante à faire, une démarche négative. Alors, c'est là où se pose la question, toute induction n'exige-t-elle pas une démarche d'abord négative? Parce que si l'induction existe, c'est l'intelligence qui va pénétrer dans la réalité pour découvrir le noyau fondamental de la réalité, en se posant la question, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce qu'il y a de premier? Qu'est-ce qu'il y a de fondamental dans la réalité? Or, ce qu'il y a de fondamental et de premier dans la réalité ne m'apparaît jamais immédiatement. C'est pour ça que toute induction va impliquer une démarche négative. Alors, cette démarche négative, on va l'expliciter rapidement, elle est facile à voir. Quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être et que je reviens au jugement d'existence, je vois que l'être ne peut pas être le ceci. Alors là, c'est très important. L'être ne peut pas être le ceci, puisque ce n'est pas cela que je regarde. Le secret de l'être n'est pas dans le ceci. Le noyau fondamental de l'être n'est pas dans le ceci. Il est dans « est ». C'est ça que je mets en pleine lumière. Le ceci, ce sont les déterminations. Ce sont toutes les déterminations. Ici, je peux très bien m'aider. Je peux très bien m'aider des catégories. Vous voyez? Où interviennent les catégories? C'est intéressant. Les catégories interviennent ici pour que je les nie, pour que je les dépasse. Quand je pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», les catégories ne peuvent pas me donner la solution. Les catégories me montrent toutes les déterminations que je saisis directement dans la réalité, directement dans l'étant. Donc, je dois dépasser la qualité, je dois dépasser la quantité, je dois dépasser l'aspect du genre. Quand je dis homme, quand je dis ceci, c'est un homme. Bien, le secret de l'être n'est pas dans homme, il n'est pas dans animal, et ainsi de suite. Toutes les catégories. La négation de toutes les catégories. C'est important de le faire. Hein? Il ne s'agit pas de dire oui, c'est fait. Non, non. L'être, quand j'interroge, je dois dépasser la qualité, je dois dépasser la quantité, je dois dépasser le point de vue de ce qu'on appelle la substance seconde. La substance seconde, c'est le genre et l'espèce. Je dois dépasser ce point de vue de la substance seconde. Dois-je dépasser le sujet ? Le ceci implique aussi le sujet. Puisque je dis ceci est. Et donc est attribué à ceci. Donc, est-ce que je dois dépasser le sujet ? Vous voyez, c'est pour ça que c'est important de voir qu'il y a le double dépassement des catégories et du sujet de toutes les catégories. Et c'est peut-être là la chose la plus difficile. Parce que c'est la plupart du temps, on est resté là. On a dépassé la qualité, on a dit, mais évidemment, l'être n'est pas la détermination fondamentale de l'être, la source de toutes les déterminations de l'être. Ça ne peut pas être la qualité, ça ne peut pas être la quantité, ça ne peut pas être la passion, ça ne peut pas être le point de vue du temps, ça ne peut pas être le point de vue du lieu. Mais le sujet, il dépasse toutes les catégories. Puisque nous savons que dans les catégories, il y a substance première et substance seconde. Je présuppose que vous savez tous ce que c'est que ces catégories, puisqu'il y a un pro-séminaire qui est fait pour vous faire comprendre ce que c'est que les catégories. Donc, je n'ai pas besoin de les expliquer ici. C'est tout à fait l'ouvrage d'un pro-séminaire, puisque le pro-séminaire est propédeutique, et les catégories sont propédeutiques. C'est-à-dire, c'est ce qu'on doit savoir avant d'entrer dans le sein des saints de la métaphysique. Alors, on doit savoir ça. C'est tout ce qui est les parvis livrés aux gentils. Alors, si c'est le parvis livré aux gentils, on doit regarder ce que représentent les catégories. Les catégories, donc, c'est ou les déterminations attribuables, ou le sujet. Le sujet est déjà un au-delà des catégories. C'est déjà un au-delà des catégories. Puisque ce n'est pas les catégories, la substance première. Et au fond, le vrai dépassement, vous voyez, c'est de dépasser le sujet premier, le sujet, et de dépasser le genre et l'espèce. C'est là le vrai dépassement. Eh bien, je dois dépasser toutes les catégories et le sujet pour découvrir justement le noyau fondamental de toutes les déterminations. Parce que les catégories, le sujet premier, c'est ce qui est capable d'être déterminé. L'être n'est pas déterminable. Il est par lui-même déterminé. Autrement, ce n'est pas l'être. Il est par lui-même déterminé. Donc, il n'est pas le sujet. Il ne peut pas être substance première. C'est une contradiction de dire que la substance, de dire que le principe de l'être, c'est le sujet. Puisque l'être apparaît dans le jugement d'existence, ce qu'il y a de plus déterminé, d'ultime dans toutes les réalités. Toutes les réalités existent. Et en tant qu'elles existent, elles ont justement quelque chose d'ultime. Et c'est ce « et » que je cherche à mettre en pleine lumière, en interrogeant « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Donc, vous voyez, c'est très important, ce premier moment négatif de l'induction, déblayer le terrain. Il faut se déblayer le terrain. Si je ne déblaye pas le terrain, je n'arrive pas. Le bulldozer métaphysique, hein, c'est ça. Déblayer le terrain. Je rejette toutes les catégories et je rejette le sujet. Le rejeter, c'est-à-dire, je dis, je ne peux pas m'arrêter à cela. Mais tout ça m'intéresse, parce que tout ça, c'est de l'être. Toutes les catégories sont des modalités de l'être. Le sujet est fondement de l'être. Donc, c'est pas indifférent. Je le dépasse. Mais au fond, au sens strict, je ne le rejette pas. Je le dépasse, mais je ne le rejette pas. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être dans ce qu'il a de plus fondamental, de plus déterminé, pour être capable d'être source de toutes les autres déterminations? Il faut bien comprendre cette interrogation, hein. Parce que si je ne comprends pas l'interrogation, je ne découvre rien. Je reste dans mon idée. Donc il s'agit de bien comprendre l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? L'être qui m'est donné à travers toutes ces déterminations, qui m'est donné à travers le point de vue du sujet, puisque la première manière dont l'être apparaît, c'est les catégories. C'est la première manière dont l'être se révèle à moi. Il se révèle à travers toutes ces déterminations, il se révèle à travers le sujet. Alors, il s'agit de comprendre que je dois dépasser toutes ces déterminations, que je dois dépasser le point de vue du sujet, parce qu'autrement, je resterai enfermé dans le ceci, puisque le sujet, c'est précisément le ceci. Et donc, si je reste dans le ceci, je n'atteins pas et. Je dois donc dépasser toutes les catégories et dépasser le point de vue du sujet pour découvrir ce qu'il y a de premier, au-delà du sujet, au-delà de toutes les catégories, et qui fait le lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux, puisque je peux dire Pierre est un homme. Ça prouve que Pierre est et qu'il est homme. Je peux dire que Pierre est intelligent. Ça prouve que Pierre est et qu'il est intelligent. Donc il y a quelque chose de commun entre le sujet et toutes les autres déterminations. Mais quel est ce quelque chose de commun? C'est justement l'être dans ce qu'il a de premier. Vous voyez comment cette induction peut se réaliser? C'est important parce que c'est toujours difficile d'exprimer les inductions. Si mon intelligence interroge en disant « qu'est-ce que c'est que l'être ?» L'intelligence ne peut pas s'arrêter aux déterminations catégoriales. L'intelligence ne peut pas s'arrêter au ceci, et cependant, elle ne doit pas les rejeter, parce que toutes ces déterminations sont des modalités de l'être. Ces différentes catégories existent, et l'existence se donne à travers ces catégories. Je ne peux pas rejeter le sujet, puisque le sujet existe, et grâce à lui, toutes les autres catégories existent. Et donc, je dois les intégrer. Vous voyez, procédé d'intégration. C'est curieux, c'est ça, là, au fond. Le propre de l'induction, c'est intégrer en rejetant les limites pour essayer de saisir ce qui est à la source, le principe. Le principe est toujours une source. Une source d'où viennent toutes ces déterminations. Le quelque chose qui est antérieur au sujet et aux catégories. Le quelque chose qui est antérieur au sujet, aux catégories. Donc le quelque chose qui est antérieur au sujet et à toutes les autres déterminations. Et qui, d'une certaine manière, peut exister dans le sujet uniquement. Mais qui n'est pas le sujet, puisqu'il est attribué au sujet. Et qu'il est commun à tous les sujets qui existent. Alors trouver ce noyau, ce principe, cette source de toutes les déterminations. Qu'est-ce que c'est que l'être? Je ne me pose pas, voyez, comme Aristote en disant l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être et l'interrogation qu'est-ce que c'est que la substance, c'est la même chose. Je crois que nous ne devons plus faire ça. Ça, c'est Aristote, parce qu'il est en face des catégories. Mais nous nous servons des catégories pour les dépasser. Ça revient au même. Mais c'est un peu encombrant. C'est un peu encombrant et on voit très bien que beaucoup se sont arrêtés à cette interrogation d'Aristote et n'ont pas été plus loin. Nous devons aller plus vite parce que nous devons comprendre que ni le ceci, ni les déterminations ne nous donnent ce qui est. Ça cache, ça voile l'être. Dans toute induction, il y a un dévoilement, ça c'est vrai. Mais un dévoilement qui se fait par mode de dépassement pour saisir la source. Qui est au-delà de toutes ces déterminations et qui est présent dans toutes ces déterminations. Cette source qui est au-delà du ceci, au-delà de toutes les déterminations, c'est ce qu'on appelle l'ousia. C'est ce qu'Aristote a appelé ousia. Je peux dire ça. Je peut dire que c'est ce qu'Aristote a appelé l'ousia. C'est donc la source de toutes les déterminations de l'être. Et il existe nécessairement cela, puisque le ceci existe et que toutes les déterminations existent en fonction du ceci. Donc il y a nécessairement cette existence. L'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» aboutit donc à dévoiler l'au-delà des catégories et l'au-delà du sujet. Et je dévoile l'au-delà des catégories et l'au-delà du sujet en voyant comment les catégories et les sujets sont unis par quelque chose de commun, qui n'est ni le sujet ni les catégories. Et ce quelque chose de commun, c'est la source des catégories et du sujet. J'espère que vous saisissez ce raisonnement inductif. C'est toujours très difficile, un raisonnement inductif, hein. Le raisonnement inductif se fait toujours à l'intérieur de la dyade de découvrir l'un. C'est un petit procédé très simple. C'est le procédé de l'intelligence. L'intelligence constate la dualité, elle constate que deux êtres sont liés, sont collés l'un à l'autre. Il y a donc quelque chose de commun. Autrement, ça ne pourrait pas. Et alors on doit saisir cette source commune. Cette source commune n'existe jamais seule. C'est un principe. Ce n'est pas une réalité existante. C'est un principe. C'est un principe que je saisis au-delà du sujet, au-delà des terminations. Comme ce qui explique, en définitive, comment le sujet est capable de recevoir ses déterminations et de faire qu'il y a une unité entre le sujet et ses déterminations. Pierre est intelligent. Pierre existe. Vous voyez comment l'intelligence, je vais vite puisque nous l'avions déjà vu l'année dernière, je le reprends un peu différemment, il faut toujours creuser davantage, hein, et essayer de saisir ce que représente au-delà de cette dualité la source de la dualité qui explique cette dualité et qui est une. La dyade n'est jamais première. Ça, c'est très, très juste. L'un est propriété de l'être. Donc, quand je cherche qu'est-ce que c'est que l'être, je cherche quelque chose qui est premier. Quelque chose qui est fondamental, qui est premier. Le sujet n'est pas premier. Pourquoi ? Il est complexe. Donc, il n'est pas premier. Il est capable d'être déterminé. Donc, il n'est pas premier. Ce qui est capable d'être déterminé n'est jamais premier, parce qu'il dépend d'un autre. Il dépend de celui qui le détermine. Donc je ne peux pas rester au sujet. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être ne peut pas être le sujet. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être ne peut pas être une catégorie, puisque les catégories sont relatives au sujet. Donc elles déterminent le sujet, mais elles sont relatives, donc elles ne peuvent pas être premières. Elles sont toujours secondes. Toutes les catégories sont secondes et le sujet est complexe. Il est fondamental mais complexe. Il peut être un élément mais il ne peut pas être un principe au sens fort. Il ne peut pas être cause des déterminations puisqu'il reçoit les déterminations. Il faut donc aller au-delà du sujet et des déterminations pour découvrir quelque chose de premier dans l'ordre de l'être. Et je découvre à ce moment-là, si je suis attentif à cette interrogation au milieu de la multiplicité de ces déterminations et au milieu de ces déterminations relatives au sujet qui ne s'expliquent pas mais qui sont relatives l'une par rapport à l'autre. Le sujet est relatif aux catégories, les catégories sont relatives au sujet. Substance première, substance seconde. C'est là l'astuce, voyez, d'Aristote, d'avoir appelé substance première, substance seconde, pour montrer que la substance première est relative à la substance seconde et que la substance seconde est relative à la substance première. Donc, ce n'est ni la substance première, ni la substance seconde qui est première. C'est l'ousia. Il faut abandonner le premier, il faut abandonner le second, il faut trouver l'ousia. Et l'ousia est au-delà de la substance première, de la substance seconde, pour découvrir la source de toutes les déterminations. Vous voyez, ça c'est l'induction, hein. C'est l'intelligence qui, poussée par l'interrogation, veut dépasser ce qui est immédiatement donné. Je dépasse là l'expérience et j'entre dans le domaine propre de l'intelligence. Et ça, c'est intéressant parce que le domaine propre de l'intelligence était apparu dans l'interrogation « Qu'est-ce que c'est que l'être ?» L'être ne peut être saisi que par l'intelligence. L'être n'est pas saisi par l'expérience. L'être n'est pas saisi par les sens. Il faut que l'intelligence dépasse les sens pour saisir ce qu'est l'être. Ce que Heidegger a très bien senti, ça. Il a très bien senti que seule l'intelligence, le nous, pouvait saisir l'être. Et que les sensations ne pouvaient pas. Les sensations retombent toujours sur les temps. Les sensations sont toujours collées au sensible. Et donc, elles sont toujours collées à des déterminations particulières. Elles ne peuvent pas dépasser ces déterminations et saisir la source. Seule l'intelligence le peut. Alors, il y a un procédé où l'intelligence dépasse la sensation. C'est sous la poussée de l'interrogation qu'elle veut être parfaitement elle-même. C'est pour ça que l'interrogation est si importante. C'est l'âme de l'induction. C'est l'âme de l'induction, l'interrogation. Dès que vous faiblissez, c'est-à-dire dès que vous n'interrogez plus, vous devenez rampant. Tout de suite. Vous n'arrivez plus à dépasser les sensations immédiates. L'interrogation permet ce dépassement. De saisir ce quelque chose qui m'est donné, je suis bien obligé de le reconnaître. Il y a le ceci et il y a les catégories. Elles existent. Donc je suis obligé de dépasser le ceci et les catégories pour saisir la source. Alors, je saisis à ce moment-là. Ah, mais faites attention comment je le saisis. Hein. C'est une saisie qui reste très particulière. C'est une saisie de l'intelligence comme telle, qui saisit quelque chose de premier, dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de ce qui existe. Ce n'est pas un premier dans l'ordre de l'intelligibilité, c'est un premier dans l'ordre de l'être. Et ça, je suis obligé tout de suite de le montrer. Ce n'est pas un premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Si c'était un premier dans l'ordre de l'intelligibilité, ce serait l'intelligence qui essaie de réfléchir sur sa propre connaissance pour voir ce qui est premier dans sa connaissance. Or là, je suis revenu à la réalité existante pour saisir ce qu'il y avait de premier dans cette réalité existante. Et en revenant à cette réalité existante, je saisis donc ce qui est au-delà du donné immédiat, substance première, substance seconde, pour saisir à la racine. Alors vous voyez combien les catégories sont importantes pour saisir l'ousia. C'est même capital. Je crois que si on ne saisissait pas les catégories, on ne pourrait pas saisir l'ousia. C'est la matière qu'il faut dépasser. C'est pour ça que c'est si important de bien saisir substance première, substance seconde dans les catégories pour saisir l'au-delà du premier et du second, c'est-à-dire l'ousia dans toute sa pureté. Dans sa pureté de principe dans l'ordre de l'être. Or, un principe dans l'ordre de l'être, c'est ce qu'on peut appeler une cause. Donc, l'ousia est la cause selon la détermination de ce qui est. C'est la cause de toutes les déterminations. C'est la source de toutes les déterminations. C'est ce qu'il y a de premier dans l'ordre des déterminations de l'être. Voilà la découverte de l'ousia. Parce que c'est difficile, il faut aller vite. Hein? C'est toujours ce qu'il faut faire. Il ne faut jamais oublier ça. Quand ce n'est pas difficile, on s'étend. Les catégories, on s'étend. Ça. Tandis que quand c'est difficile, il y a un effort de l'intelligence. Vous voyez, l'intelligence devient silencieuse, c'est très curieux ça. Et elle saisit toujours un principe dans le silence, parce qu'elle ne peut pas le dire. Ça qui est effrayant, le legein est au niveau des catégories. Le legein est au niveau des catégories. Dès que vous parlez, vous êtes au niveau des catégories. Vous ne pouvez pas parler au niveau de la saisie d'un principe. C'est ça qui est si difficile pour la métaphysique, vous voyez. Le métaphysicien est un être silencieux. S'il pense, vraiment, hein, c'est un être silencieux.
Il pourra ensuite, à partir de là, montrer toute la richesse de cela. Mais la découverte d'un principe se fait toujours dans le silence. Je ne peux pas le dire. Le moment précis où votre intelligence, en interrogeant, est en présence de la substance première et de la substance seconde, ça je peux le saisir directement, ça je peux le dire. Le « legein » là est parfait, le « dire » est parfait. Je peux dire ce que c'est que ceci, je peux dire ce que c'est que animal, je peux dire ce que c'est comme, je peux dire ce que c'est que la qualité, je peux dire ce que c'est que la quantité. Là j'ai un bavardage infini des catégories. Alors je peux regarder cela, tandis que quand je veux dépasser les catégories, alors l'intelligence seule pénètre. Et l'intelligence saisit qu'en effet, il y a nécessairement, du côté de l'être, une source. Elle réussit de saisir cette source. Et elle la saisit immédiatement. Vous voyez, il n'y a pas un métaxu. Il y a un métaxu que je nie. Et je saisis une source. Une source, on la saisit dans son jaillissement. Autrement, on ne la saisit pas comme une source. On la saisit comme un puits. Et il n'y a plus d'eau. Alors là, à ce moment-là, je saisis le lieu de la source. Le puits, c'est le lieu de la source, mais ce n'est pas la source. C'est ce qui enveloppe la source. Alors, je peux, en effet, décrire ce qui enveloppe la source. Mais la source, dans son jaillissement premier, je ne peux pas la décrire. Je la saisis par l'intelligence et je dis, c'est ça le principe de toute détermination de l'être. C'est ce qu'on a appelé l'ousia. L'ousia est source. L'ousia n'est pas puits. Le puits, c'est le sujet. Ça, je peux le décrire. Oui, c'est toute la différence entre le ceci qui est puits, qui enveloppe. Tout le monde peut décrire le ceci. Et je ne peux pas décrire l'ousia. Je ne peux pas la décrire. Il n'y a pas de legein. Au sens rigoureux. Mon legein, mon discours est au niveau des catégories. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mon legein est au niveau des catégories. Lorsque je suis en présence de cette source, je la saisis, je la dis, mais je la dis toujours en niant tout le reste. Donc je ne la dis pas, vous voyez, directement. Tandis que sujet premier, je n'ai pas besoin de nier. Sujet premier, oui, je le saisis relativement à autre chose, mais je le saisis positivement relativement à autre chose. Tandis que lorsqu'il s'agit de saisir une source, qui est l'ousia, je la saisis nécessairement comme un au-delà de toutes les catégories que je peux décrire. Comme un au-delà de du sujet. Ce qui est à la racine du sujet, ce qui permet le sujet d'être sujet. La source permet au puits d'être puits. Je prends ça exprès, parce que c'est bon de regarder la différence entre le puits et la source. C'est intéressant, parce que ça nous permet d'écrire ça, ça nous permet de comprendre qu'un principe, dans l'ordre de l'être, c'est source de toutes les déterminations. Et la substance, à ce point de vue-là, l'ousia, n'est pas une détermination, elle est source. Voilà la première découverte au plan philosophie première. Vous voyez, alors n'oubliez jamais ce que saint Thomas redit à la suite d'Aristote. La principale considération du métaphysicien, de la métaphysique, c'est de regarder la substance. Et c'est vrai, il faut avoir un œil suffisamment perçant pour, au-delà du puits, saisir la source. Il faut cette pénétration de l'intelligence, l'intelligence intus et gere. Donc elle lit quelque chose qui est au-delà de la lecture habituelle. Et elle saisit ce qu'il y a de premier dans l'ordre des déterminations. Et c'est le propre justement d'une intelligence interrogeante, d'une intelligence tendue vers, qui peut faire ce dépassement. Réfléchissez et puis vous direz toutes vos objections et toutes vos questions demain.